je vais avoir le plaisir de vous proposer une petite expérience de transmission de pensée que je vais réaliser devant vous sans aucune espèce de trucage grâce au don de voyance de Madame Arnica.
CO2, mon amour.
Madame Arnica, voulez-vous me dire quel est le signe zodiacal de monsieur?
Monsieur est placé sous le signe zodiacal du lion et du slow fox à poil dur.
Oui, et son avenir?
Denis Chessou.
Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour.
Sur France Inter.
Ah bah oui, c'est avec Madame Arnica, on n'a pas hésité une seconde. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, votre magazine. Très très nature à présent, une émission qui rapproche les hommes en essayant de nous rapprocher de la nature. Avec Arnaud Caillet aujourd'hui à la technique, nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Avec, vous le savez, donc une petite humeur d'actualité. C'est quoi la bonne distance entre les pesticides et votre habitation? 2, 5, 10 mètres entre le cancer et votre maison? Mais arrêtez de faire peur pour rien, Denis Chessou. C'est la bonne distance, puisque c'est indiqué sur le bidon et validé par l'ANSES. C'est sur la notice des fabricants, des empoisonneurs de confiance qui dictent les normes. Eh bien écoutez, faites une consultation, les gens auront l'impression d'être écoutés. Oui, mais alors je vous rappelle, monsieur le ministre de l'Agriculture et de la FNSEA, qu'en tant que conseiller, cette proposition ne vient pas forcément d'un virage écologiste du gouvernement, hein, mais de l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêté pesticide. Ah bah oui, il a été jugé insuffisamment protecteur de la santé et de l'environnement. Donc on a moyennement le choix. Et puis depuis l'Angouette, les arrêtés sur les distances d'épandage pris par d'autres mairies font des petits. Bon, alors faut trouver une parade. On n'a qu'à dire que les bidons de pesticides inoffensifs avec des têtes de mort dessus sont en plastique recyclé. Et puis voilà. Écoutez, ça va pas le faire, hein, parce que les gens commencent à faire la différence entre la com, la demande d'un énième rapport pour caler un bureau et les actions. Bon, alors dites-moi, c'est quoi les chiffres? 3 plus 5 plus 10 égale 18 mètres. On divise par 2, ça fait 9. On en met un de plus, comme ça on aura l'air de lâcher du lest et les lobbies seront bien gardés. Et puis l'agence de com va trouver des éléments de langage. Oui, mais alors, monsieur le ministre, pour les futures maladies liées à l'exposition aux pesticides, on fait quoi? Eh ben, comme d'habitude, hein, vous dites que c'est multifactoriel et que l'écologie, en tout cas, c'est notre ADN. Alors à quelle distance ces oiseaux doivent-ils voler pour éviter un printemps silencieux? À quelle distance le cynisme ambiant va-t-il se tenir? Alors certes, on ne meurt pas de faim chez nous, mais à qui faire croire qu'utiliser depuis un demi-siècle des molécules de synthèse, que répandre sur des millions d'hectares des composés chimiques létaux destinés à détruire, exterminer tout ce qui dérange l'ordre marchand des choses avec des composés sophistiqués qui n'existent pas dans le complexe biochimie naturel? À qui faire croire que cela ne va pas avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur toute forme de tissu vivant? Est-ce que nous sommes, nous humains, plus coriaces, si différents de la truie, du hérisson, du chat, du loup, du renard et la belette et autres habitants de la planète pour espérer passer entre les gouttes? Les nuages de pesticides sont les fils du vent. Alors vont-ils s'arrêter bien sagement à 3,50 m de la haie de thuya du jardin, comme celui de Tchernobyl en respectant la frontière? Et puis tenez, à quelle distance les SUV qui veulent se faire aussi grosses qu'un 4x4 dont on distille les publicités entre vos oreilles France-Intérienne, faut-il être là aussi? À quelle distance va-t-on se tenir de l'écologie vitale et bien comprise du réchauffement climatique? 2, 5, 150 mètres, 10, 100 km à des années-lumière? Cette nouvelle lumière, en tout cas plus douce, au profit moins aveuglant, viendra. Elle viendra des citoyens, des collectivités, des associations, des jeunes. Allez, bonne consultation. Et vous le savez, nous débutons par un mot de l'environnement, un abécédaire de l'environnement. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Denis Chessou.
Alors s'il y a un mot qui nous a incité à devenir destructeur de la nature, on va dire que c'est le mot progrès. Et pourtant, bah, c'est un mot qui est très positif, il est bourré de bonnes intentions, il y a de l'intelligence humaine derrière. Où est le problème Dominique?
Le problème c'est qu'il y a deux progrès. Il y a le progrès avec un petit p dont tout être vivant est capable, et puis il y a le progrès avec un grand P. Alors ça, c'est le récit majeur de la modernité occidentale. C'est le récit de l'avancée du genre humain en totalité grâce à l'accumulation des connaissances scientifiques et à leur retombée en matière de technique et d'industrie. Et tout ça pour nous conduire à une amélioration constante de la condition humaine, voire au bonheur. Ce parcours vers un avenir radieux est conçu comme une marche nécessaire, automatique.
Alors c'est une idée qui naît au début du XVIIe siècle, hein, qui va s'imposer à l'issue de la querelle des anciens et des modernes au XVIIIe, avec les Lumières, et qui va se diffuser largement au XIXe, car après on connaît la suite, après la Seconde Guerre mondiale. Allez, hop, les Trente Glorieuses.
Et patatras, adviennent les menaces écologiques. En premier lieu local, l'industrie ne produit pas que des biens, mais aussi des maux. Aucun bien sans maux, sans destruction d'écosystèmes et sans accumulation de pollutions diverses. Le bonheur industriel commence à fleurer bon. Le lymphome hodgkinien et autres cancers. La malbouffe, les insectes se font rares sur les pare-brises et les animaux sont transformés en Rubik's Cube, souffrant et se déchant aux abattoirs.
J'aime bien le Rubik's Cube. Et bien sûr, il y a aussi les menaces globales, ça on le voit.
Oui, effectivement, avec 46 degrés au sud de la France, plus de 50 en Inde et ailleurs, plus de 30 au cercle polaire, la Terre se met effectivement à ressembler à une serre.
Et derrière tout ça, donc, c'est l'habitabilité de la Terre qui se dégrade. Et pourtant, Dominique Bourg, le verre était dans le fruit depuis longtemps, on le savait, quoi.
Et oui, Denis, la saga énergétique avait exigé le sacrifice des mineurs, la bagnole, le taylorisme, et Hiroshima avait déjà précédé sur les chemins de l'enfer le changement climatique et la sixième extinction.
Alors, d'où vient en fait cette idée de progrès ?
La physique naissante, au seuil des temps modernes, à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, nous a amené à ne voir dans la nature qu'un agrégat de particules, extérieures les unes aux autres, purement mécaniques, sans aucune intériorité, sans vie, obéissant à une loi simple, celle du mouvement, puis la gravitation universelle.
Ce que vous nous dites, c'est que l'humanité ne pouvait qu'apparaître totalement étrangère à la nature.
Effectivement, nous étions seuls sur Terre et dans l'univers à posséder vie et intériorité. Nous n'étions entourés que d'animaux-machines. Il ne nous restait alors d'autre horizon que d'achever le boulot, de détruire le donné naturel en l'exploitant, en l'artificialisant, de nous arracher à la nature avec constance et obstination. Tel était le sens du progrès avec un grand P. Et vous connaissez la suite.
Alors la suite justement, pour vous, quand est-ce qu'il y aura un progrès dans ce 21e siècle ?
Quand nous aurons refondé notre rapport à la nature, au vivant, et à l'autre, comme coopérateur et non comme concurrent, quand nous saurons vraiment faire ensemble.
On va se faire du bien, on va aller cueillir de l'arnica maintenant, c'est notre sujet, c'est notre reportage. Portez-vous bien, vous êtes sur France Inter.
Shadow, but you seem to stay afloat, cause you're shallow. You can never make a promise for tomorrow, cause all the time you choose to take has been borrowed. I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, oh why? Why, oh why? I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, oh why?
C'était Joy Crooks sur France Inter. Heure de se toucher, oui, mais sûrement pas couler.
Elle a toujours poussé. Là, c'est, c'est un peu un mystère aussi, c'est une association entre un champignon et une plante, un terrain acide, des chaumes. Elle n'a pas la concurrence de l'herbe parce qu'on est en altitude, elle a suffisamment d'eau, elle a... voilà.
Oui, donc ce spot, il est quand même très connu, très convoité.
Ah ouais, depuis très longtemps, et très convoité. C'est l'or jaune des Vosges, c'est l'arnica, l'or jaune.
Bon, bah alors attention, parce qu'avant de traverser, soit vous avez une voiture, soit vous avez une meumeu vosgienne hein, qui peut peut-être vous renverser. C'était le petit matin sur le Markstein. Nous sommes dans le massif des Vosges, sur le passage de la route des Crêtes, et nous allons aller à la rencontre alors d'une plante que vous connaissez, hein, l'arnica, d'une astéracée qui colorie les gazons, mais alors d'un beau jaune orangé, et son apogée, c'est fin juin, c'est début juillet. Le problème, c'est qu'on ramasse évidemment très fortement depuis une cinquantaine d'années. Donc, ampleur et business de la cueillette, nous allons en parler. Vous avez des gros laboratoires, hein, comme Boiron, Véleda, Lening qui sont sur l'affaire, et puis aussi plein de cueilleurs. Bon, l'année n'a pas été terrible, hein. C'était quand même année de sécheresse, le froid au printemps, c'est pas bon du tout pour l'arnica. Mais on va donc découvrir cette plante avec des cueilleurs. Allez, quoi, vers 1200 mètres d'altitude. Ah, alors là, c'est très bon pour les articulations, on passe sous le fil, hop là, et on arrive sur cette chaume, sur ces gazons comme on dit ici donc dans les Vosges. Bonjour Clément Hurion.
Bonjour.
Clément Hurion, vous êtes venu en fait de votre ferme du bien-être qui est un peu plus bas.
Hein. Oui, c'est ça, une petite heure de route.
Voilà, qu'est-ce que vous faites alors?
Eh bien là on vient faire, parce qu'on est cultivateur, donc on cultive mais on récolte aussi en sauvage. Donc là on vient faire une petite récolte sauvage,
ouais.
Enfin une belle récolte sauvage puisque c'est l'arnica et c'est un petit peu notre solstice dans nos récoltes sauvages, quoi. Ouais. C'est le summum.
On a un peu ce soleil, ce gros arnica hein, qui est en train de se lever, voilà, dans le ciel. Et puis donc cette arnica qui est là, qu'est-ce que ça représente pour le cueilleur que vous êtes, cette arnica?
L'arnica pour nous qui sommes, on est agriculteurs à l'année, donc pour nous c'est vraiment le summum de notre cueillette, le moment fort de l'année, puisqu'on a un groupe de 10 bleu vert Vosges, de 10 cueilleurs professionnels et aussi agriculteurs professionnels. Donc pour nous c'est déjà un moment de convivialité, c'est-à-dire qu'on va se retrouver entre 10 collègues. On n'a jamais trop l'occasion de se croiser avec nos métiers dans l'année, puisqu'on se croise vite fait, on n'a pas trop le temps. Et là on a le temps de discuter puisqu'on fait un travail ensemble. Donc c'est le seul moment de l'année où on travaille tous ensemble.
Pourquoi en fait l'arnica se plaît sur ces chaumes?
C'est une plante de terre acide, c'est une plante de région montagneuse, et puis c'est une plante qui a beaucoup diminué sur d'autres massifs montagneux. Mais ici dans les Vosges, on a ce coin qui représente 90% de la récolte nationale, quoi. Donc c'est un coin d'importance, on a 120 hectares, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est vraiment la dernière peau de chagrin de l'arnica en France, quoi.
Et alors quand même, sur ces chaumes, on a balancé beaucoup de chaux.
Oui.
Parce qu'on manquait de graminées.
C'est ça. C'est
voilà.
Ça,
ouais. Mais l'arnica, c'est pas tellement compatible. Hein.
Non. On peut bien comprendre que l'agriculteur, lui, il a besoin de foin.
Bien sûr.
Pas d'arnica, les vaches ne le mangent pas. Donc lui, son intérêt, c'est de faire remonter le pH pour avoir un peu plus de foin. Surtout qu'en bas, la pression immobilière a augmenté en bas. Hein, donc les agriculteurs ont été obligés d'aller chercher des terrains un peu plus hauts.
Ouais.
Donc c'est ce qui fait un petit peu une espèce de concurrence entre l'arnica et le besoin en foin de l'agriculteur. Mais je pense que l'arnica, il est intéressant aussi pour l'agriculteur parce qu'il est un témoin, un marqueur de ces milieux des chaumes. Donc c'est l'identité des chaumes. C'est-à-dire que quand on a l'arnica, on a tout le reste aussi des plantes qui sont spécifiques à ici et qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs ou pas dans cette proportion.
Parce qu'on a quand même tout un cortège quand même assez incroyable. On n'a pas que l'arnica montagne.
Oui, on a le fenouil là, le fenouil des Alpes, on a la rhinande crête de coque, on a des trèfles, on a des graminées, des lèches. On a une diversité formidable. Donc voilà quoi, hein, le jour où il n'y a plus que des graminées à foin, c'est une perte de biodiversité énorme, quoi.
Cette arnica, elle est quand même extrêmement habile parce que elle fait à peu près, on va dire, 30-40 cm avec sa tige. Mais donc, comme elle est un peu velue, elle n'intéresse pas les papilles des vaches, des brebis et des chèvres.
Oui, et puis elle est très très amère aussi.
Voilà.
C'est très très amère. C'est des lactones sesquiterpéniques qui sont dedans qui font cette amertume. Donc, c'est ce qui fait aussi que c'est des principes actifs qui nous permettent d'avoir des vertus anti-inflammatoires ou décontracturantes musculaires, mais voilà, c'est pas appétant pour les bovins, quoi.
Alors lorsque l'on parle justement des vertus de l'arnica, on le rappelle donc.
Eh ben anti-inflammatoire, hein, tout le monde connaît presque tout le monde, je pense, les granules d'homéopathie qu'on donne aux enfants quand on se fait un choc.
Arnica 9CH.
Voilà, c'est ça, voilà, pour ne pas le nommer. Et aussi un aspect qu'on connaît un petit peu moins, c'est le décontracturant musculaire. Donc ça va permettre de décontracturer les muscles.
puis alors cette arnica, on disait que c'était aussi le tabac des Vosges.
Oui, oui, oui. Bah moi, ça m'a toujours un petit peu interloqué, on va dire quoi.
De la fumette, c'était ça.
Bah c'est ça, ouais. Je pense que pendant la guerre, n'ayant pas de tabac, ils ont remplacé par cette feuille qui ressemble un peu à une feuille de tabac, qui est un peu épaisse comme ça, qui doit peut-être avoir se rapprocher le plus du tabac par rapport à d'autres plantes, quoi. Ouais.
Alors arnica et changement climatique, est-ce que là on peut faire un lien parce qu'il y a quand même des choses extrêmement importantes entre des coups de canicule, des coups de moins d'eau.
Bah, je pense que voilà, on voit ces dernières années qu'il est toujours moins là. Alors certains vont dire c'est à cause des cueilleurs. Forcément, les cueilleurs ont une influence, mais moi je pense que l'influence principale de sa disparition, c'est le changement climatique et des étés. Enfin, on est sur des milieux quand même assez extrêmes où il peut faire assez chaud, où le terrain est très desséchant. Donc dès qu'on n'a pas de précipitation, bah, les plantes souffrent. Moi j'ai entendu dire des gens depuis 15 ans, on n'a jamais vu ça. Il va disparaître, quoi. Je pense, quoi. C'est inéluctable, malheureusement.
Clément Hurion, lorsque vous avez donc ces plantes, vous les faites d'abord sécher, vous gardez donc ces capitules, on va dire donc la fleur. Mmh. On utilise la tige aussi ou pas?
Alors nous non. Nous, en tant qu'agriculteurs, transformateurs, on va utiliser la fleur qu'on va faire sécher et mettre dans l'huile. Oui. Mais les laboratoires, eux, et puis nous aussi on pourrait le faire, vont prendre la plante entière, la broyer et la mettre dans l'alcool. C'est l'alcool qui va extirper les propriétés alors que nous c'est l'huile, quoi.
Puis il y a l'odeur.
L'odeur, elle est, ça c'est quelque chose. Hein. C'est amer comme ça, c'est fort, c'est puissant, c'est.
On l'a sur
ça,
les mains.
Ça c'est tout un programme. Alors ne pas se frotter les yeux aussi hein, après avoir touché, parce qu'on a les yeux qui brûlent. Hein. Ouais. Ça brûle les yeux, c'est assez puissant quoi.
Et là c'est chouette parce que donc ça y est, on a nos grillons qui commencent à décoller, le soleil est là. Et là, on est depuis 4h du matin, vous cueillez ?
Ouais, c'est ça, 4h du matin, ouais. J'en ai bien peur.
Ouais.
Mais c'est aussi ça, un peu, cette cueillette. C'est l'obligation de se lever à 4h. On n'aime pas trop sur le coup, mais ça nous permet de nous lever en même temps que le soleil et de profiter de ce moment-là, quoi, voilà. Hein, être dans les hauts et puis voir le lever du soleil au moment où les jours sont les plus longs. C'est magnifique, quoi.
Ah, bah,
les violettes, là, voilà.
Des offrices là.
Ouais, des offrices, c'est ça, voilà. Ouais. Des blanches, des violettes.
Alors c'est là qu'on se rend compte quand même qu'il y a une diversité. C'est incroyable. Ah, on doit avoir, allez, peut-être, je dis pas n'importe quoi, mais enfin bon, une cinquantaine, on va dire, d'espèces au moins.
Oui, je crois que c'est entre 50 et 80 sur ces chaumes-là, quoi, me semble-t-il. Mais ça, c'est important parce qu'à chaque plante, il y a un insecte qui est lié aussi souvent. Donc une plante disparaît, un insecte disparaît. Donc c'est quand même une richesse. C'est un appauvrissement, quoi, d'avoir ces choses-là qui disparaissent. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Eh ben, un bon climat, j'allais dire, quoi. Ouais. Un peu de pluie, un peu de soleil, et puis le reste, c'est la nature qui nous l'apporte, j'ai envie de dire.
Spectacle 5, simple de la nature, hein, tranquillement, et donc avec une soixantaine de cueilleurs, hein, il y avait donc ce jour-là. Bah, tenez, en voilà un autre, Éric Brisbard, qui est adepte également de la sylvothérapie. On poursuit notre marche. Au milieu des épicéas, alors il y a quand même un truc qui est assez facile entre l'épicéa et le sapin. Vous avez les cônes orientés vers le bas, c'est pour l'épicéa.
Tout à fait. Et vers le haut, c'est le sapin. Et d'ailleurs, au sol, on ne verra que des cônes d'épicéa, puisque le cône du sapin se désagrège directement sur le sapin.
Ah, une question que l'on se pose, Eric. Nous sommes sur les Vosges. Quand on parle de la ligne bleue des Vosges, là, c'est peut-être le chimiste et l'amoureux des plantes qui va nous en parler.
Effectivement, on parle de ligne bleue des Vosges, c'est-à-dire que notamment le soir et le matin, quand on regarde la forêt, on s'aperçoit qu'il y a un bleuté verdâtre qui se trouve vraiment au-dessus des forêts et au-dessus des montagnes. Et en fait, ce sont les terpènes, qui sont émis par les résineux, qui vont donner cette couleur-là.
Donc ce sont des molécules.
Ce sont des molécules, oui, tout à fait.
Oui. C'est un peu comme les huiles essentielles. Là,
un petit peu comme les huiles essentielles, oui. Et qui donnent cette couleur à l'horizon bleutée.
Donc merci aux arbres qui sont les premiers peintres des Vosges. Hop, il est encore souple.
Ça roule, fais un peu attention.
Ah oui, je sais. Voilà. Petit passage canadien.
Bon, ça va être les dernières fleurs de la cueillette de la journée, là, parce qu'il commence à faire très chaud. C'est un petit peu orageux, donc on va aller mettre les fleurs à sécher rapidement.
Au dodo les fleurs. Hop. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Cher Eric,
eh ben un beau cru 2019 d'arnica, ouais. Avec un produit final qui est la même odeur que l'odeur que j'ai aujourd'hui sur les doigts.
Ah, on n'a pas fini le balade, la balade et le reportage. Pas du tout. Et comme la Suisse allemande est un peu plus loin que les Vosges, mais que nous sommes extrêmement ouverts, eh ben, Thierry Dupin, il a choisi qui ? Oh, vous allez le reconnaître. Ah bah oui. Je sais pas s'il soigne un handicap, mais bon.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible. Que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair. Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille. Le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Mais non, il n'est pas si sec son cœur. C'était Stéphane Escher, si tu veux que je chante. Un peu d'arnica, il paraît que ça calme.
Il faut pendre les écolos tant qu'il y a des arbres. Il faut pendre les écolos tant qu'il y a des arbres.
CO2, mon amour.
Ouais, ouais, bah c'est ça. Alors continuez à fumer les pétards dans vos tentes. Vous allez sûrement sauver le monde
sur France Inter.
Oui, donc ça calme pas forcément tout le monde. Je tiens à vous signaler quand même qu'il y a une excellente revue depuis mais des années qui fait un boulot formidable dédié au végétal qui s'appelle La Garance Voyageuse. On a mis sur le site de CO2 les coordonnées, donc cette Garance Voyageuse. Et dans le prochain numéro, bah vous aurez quelques pages très bien faites sur l'arnica. Allez, on est toujours à 1100-1200 mètres d'altitude dans les Vosges. Hein, oui, oui, et on est avec qui là? Tiens, on change. Un homme de la situation. Bonjour Fabien Dupont.
Bonjour Denis Chessou.
Alors Fabien Dupont, vous êtes le responsable mission Natura 2000 dans ce parc naturel régional des Ballons des Vosges. Alors sous les yeux, allez, on y va pour le décor. Qu'est-ce que l'on a ?
On a les plus belles chaumes du monde avec cette année pas trop d'arnica mais plein d'orchidées, de la pensée des Vosges, ce qu'on appelle des landes pelouses oligotrophes, c'est-à-dire des landes qui poussent sur des sols qui sont pauvres. Donc c'est pauvre en nutriments mais c'est très riche en biodiversité.
Et alors, nous avons le grand ballon.
Le grand ballon au loin.
Pas confondre avec le ballon d'Alsace hein, au-dessus.
Le ballon d'Alsace est derrière nous. Il est sur le territoire, l'Alsace et la Lorraine, hein, le ballon d'Alsace. Il est à cheval sur les trois ex-régions. Donc on a le grand ballon au fond avec le radar qui coiffe le sommet à 1424 mètres.
Le plus haut sommet des Vosges.
Le plus haut sommet, voilà.
On se retourne dans la Léonec, qui n'est pas loin.
Léonec est de l'autre côté avec sa petite pointe. On voit tous ces sommets alsaciens au nom fleuri, Rottenbachkopf, Batrikopf, Rheinkopf. On voit le Kastelberg. On a une vision ouais, à 360 degrés là.
Et on est sur ce lieu bah, assez incroyable qu'on appelle les chaumes. Alors déjà, les chaumes, zone d'élevage, ça a été travaillé par l'homme, pas tellement, on a laissé faire la nature. Qu'est-ce que c'est les chaumes ?
Alors les hautes chaumes, c'est le nom qu'on donne au pâturage d'altitude sur le massif des Vosges. En gros, c'est 3500 hectares de chaumes qui sont répartis sur toute la crête vosgienne et qui sont mis en valeur par une centaine d'éleveurs. Mmh. Donc ce sont des chaumes qui sont créés par l'homme depuis au moins le Moyen-Âge et les fermiers aubergistes d'aujourd'hui sont les descendants depuis des générations et de générations de gens qui entretiennent ces milieux et qui les mettent en valeur.
On a encore ce qu'on appelle des marquereries parce que donc les marquères c'était donc ces femmes et ces hommes qui traillaient les vaches. Hein, donc ça vient du melker allemand ou du malker on va dire alsacien mais ça existe encore ça ?
Oui, c'est toujours le nom qu'on donne aux éleveurs et qui se donnent entre eux. Donc les marquaires, absolument.
Et donc chiens d'accueil à la ferme, ou bien qu'ils se sont diversifiés donc les uns les autres.
Ah bah oui, les fermes auberges sont. Le concept est né ici en Alsace. Donc très rapidement, le siècle dernier, quand les éleveurs ont commencé à voir des touristes qui se promenaient, ils se sont dit on pourrait aussi leur offrir un peu de lait, un peu de fromage, puisqu'on faisait aussi déjà à l'époque du Munster. Et petit à petit, ça a pris de l'essor et c'est devenu ce qu'on appelle les fermes auberges.
Alors, le rôle donc, du parc naturel régional, ici, pour quand même conserver ces endroits, comment on fait pour marier à la fois l'arnica, qui aime donc les terres acides, et puis l'agriculteur qui n'aime pas trop les terres acides, parce que s'il est sur une terre acide, il n'a pas assez de graminées, il n'a pas assez d'herbes.
Oui, concilier tous les usages, c'est un peu notre rôle au quotidien dans les parcs, à tous les niveaux. Et ici aussi, les terres acides, les éleveurs les aiment pas. Nous, on leur dit qu'il faut aussi apprendre à les aimer, parce que dans cette terre acide qui reflète vraiment le terroir, le granit, les gros waqueux, vous avez une flore adaptée. Donc qui dit flore adaptée dit flore spécifique, dit aussi odeur. Et c'est aussi dans ces herbes-là, dans ce fourrage-là, qu'on va aussi trouver le goût du Munster. Toutes ces plantes-là sont des plantes aromatiques qui sont riches en composés benzéniques. On a en dessous de nous la baudremoine, qui est le fenouil des Alpes. On a la flouve odorante. Toutes ces plantes-là, elles sont riches en composés aromatiques. Alors certes, c'est pas du régras, c'est pas du dactyle, c'est pas plein d'herbes, mais c'est plein d'odeurs. Et c'est aussi l'intérêt de maintenir un peu ces territoires-là.
Et on voit cette hêtraie sapinière, c'est quand même l'élément majeur de la forêt.
C'est la forêt de montagne chez nous, une forêt de hêtraie de sapin, et qui, vers les chaumes, devient plutôt une hêtraie. Le sapin n'arrive plus à pousser vers 1100 mètres.
Alors les petits cueilleurs vont passer à peu près une demi-journée, et les gros cueilleurs, donc pour les labos, en général c'est 3 à 4 jours. Donc il y a quand même une réglementation, il y a un permis, donc de cueillir. C'est pas pour n'importe qui, donc on va bien le comprendre. On s'est levé donc très tôt, et puis sur le coup de 8h30, on s'est retrouvé un peu en contrebas du Markstein à la ferme Saint-Antoine, et là, le gros du ramassage a été effectué, bilan en gros de la cinquantaine de cueilleurs de la matinée.
Et on fait rapidement un petit tour de table sur vos quantités, d'où vous venez.
Nous, c'est Sarah et Romain, on est situé à Esch-Barreauval. On s'est installé l'année dernière en plantes médicinales et aromatiques, transformation de petits fruits. Nous, on est là pour récolter maximum 4 kg de capitules.
Oui, le laboratoire Velleda, donc Denis Greffier. Nous, on avait un besoin d'à peu près 500 kg. Bon, on ne les fera pas, c'est sûr.
Caroline Goutz, je suis sur Turquem, bientôt Munster. Je fabrique des baumes et des huiles abracadabome. Et j'avais fait une demande pour 5 kilos de capitules à peu près.
Qui vient cueillir? Comment on réglemente tout ça? Parce qu'il y a quand même un appétit fort pour l'or des Vosges.
Oui, c'est la plus grosse zone de cueillette du Markstein. Et ça commence un peu à se savoir. Les gens viennent de plus en plus. Après, c'est à nous, le parc, avec les élus, avec le département des Vosges, d'essayer de trouver un bon compromis. Donc comment ça marche? En fait, les cueilleurs professionnels, c'est juste réservé à de la cueillette professionnelle, font part de leur candidature et puis du tonnage qu'ils souhaiteraient récolter. Et on examine ça avec les élus. On donne priorité aux cueilleurs qu'on appelle historiques, qui sont des gros laboratoires français, et puis également des cueilleurs locaux. Et après, les nouveaux, on regarde. C'est difficile de dire non, parce que beaucoup de nouveaux cueilleurs sont des jeunes du coin qui ont une petite activité de développement. Donc, on arrive à trouver de nouvelles zones pour eux, notamment au Grand Ballon, où il y a un petit peu des secteurs qui sont certes moins intéressants qu'au Markstein. Mais voilà comment ça se passe. Après, si on a un nouveau cueilleur, genre un laboratoire américain qui voudrait cueillir 2 tonnes, on dirait niette.
Non, parce que le problème, c'est de préserver la ressource. C'est comme partout. Il ne faut pas qu'il y ait de surpêche ici.
Absolument. Oui, d'autant plus qu'une cueillette trop intensive pourrait, en effet, avoir un impact sur cette espèce-là.
Fabien Dupont, dans ce business quand même de l'arnica, qui y trouve son compte? Il y a à la fois les cueilleurs, il y a les collectivités et il y a bien sûr les laboratoires. Comment ça se répartit tout ça?
D'un point de vue financier, les communes qui sont propriétaires touchent un petit peu d'argent. En gros, 15 000 euros par an, répartis entre 6 communes. Le touriste, il retrouve aussi quelque chose, parce que bon, là, on le voit pas, mais normalement, c'est tout jaune. C'est des paysages quand même assez magnifiques. Pour le massif, c'est aussi un support de communication. C'est pour beaucoup de gens une vitrine.
Donc, il y a ça. Évidemment, les laboratoires qui, après, donc rachètent aux cueilleurs en fonction du poids. Comment ça se passe ?
Oui, voilà. Après, ça, c'est leur sauce à eux. Hein. Ça, je ne sais pas trop, mais effectivement, les cueilleurs, les groupes de cueilleurs revendent à des laboratoires. Et puis aussi, on parlait de comment ça profite à quoi. Ben, ça profite à la biodiversité, puisqu'en protégeant l'arnica, on protège ces chaumes magnifiques. Et l'arnica, c'est un peu l'espèce parapluie de, comme on dit en écologie, c'est-à-dire que quand il y a de l'arnica, il y a des orchidées, il y a de la pensée des Vosges, il y a toutes ces plantes-là. Donc par rapport à Natura 2000, dont l'objectif est de conserver ces milieux remarquables uniques en Europe, bah, c'est un moyen, parmi d'autres, de protéger ces landes magnifiques.
Notre belle arnica se reproduit comment ? Par les racines, par les rhizomes ?
Essentiellement, comme beaucoup de plantes de montagne, par ce qu'on appelle la multiplication végétative. Donc c'est un rhizome. Ce qui fait que quand on tire la plante entière, il y a toujours la racine qui reste à l'intérieur. Donc ça repousse l'année d'après. Donc ça se reproduit surtout par là et également par des graines, mais moins. Les graines sont rarement fertiles en fait. On a fait des essais et on s'est rendu compte qu'elles étaient peu fertile, peut-être aussi parce qu'il y a une petite mouche qui est spécialisée et qui pond dans l'arnica et qui du coup mange la graine.
Après Fabien Dupont, tenez encore une petite pincée de cueillette avec Éric Grisbar.
Donc sur la cueillette là par exemple, j'essaye déjà d'observer qu'il y ait bien une fleur tous les mètres. Ouais. Et puis c'est important aussi de regarder le cœur de la fleur pour voir s'il est bien, bien net, hein, qu'il n'est pas fané. En plus d'observer l'abeille qui est sur la... Mais en général, la nature fait bien les choses. L'abeille, elle est toujours sur la plus belle des fleurs. Tu vois, regarde, celle-là, elle est... Alors, elle n'est pas très très grosse, mais je ne sais pas si tu vois au niveau du cœur. Donc là, elle n'est pas du tout abîmée, quoi. Ça, c'est vraiment une belle fleur.
Remercions aussi Clément Vuillet donc, qui a mixé ce reportage. Et là, on va changer encore.
CO2, mon amour.
Je viens des Vosges. Les Vosges, vous voyez.
Avec Denis Chessou.
Les Vosges, oui. C'est en France, hein, oui. C'est juste avant l'Ukraine, vous voyez.
Sur France Inter.
C'est dans l'Est, en Lorraine.
Alors pour pas avoir d'ennui, c'est pas la peine, hein, donc ne m'écrivez pas. Donc y a Lorraine, oui, mais il y a l'Alsace, il y a la Haute-Saône, il y a aussi le territoire de Belfort, bon voilà. Alors merci donc à France Bleu Lorraine, à Metz, là, d'accueillir Jacques Florentin, parce que Jacques Florentin, vous êtes pharmacien, vous êtes président de la Société Française d'Ethnopharmacologie. Vous avez écrit ce très bon guide du bon usage des plantes qui soignent aux éditions Ouest-France, il y en a plus de 160. On remercie aussi Hildegarde de Bingen, qui doit nous écouter, donc cette abbesse sainte, de naturopathe qui mentionne au XIIe siècle donc l'arnica. Et alors parlons maintenant des alternatives, parce qu'il y a quand même beaucoup de cueillettes. Bon, cette année, ils ont fait 20% de ce qu'ils auraient souhaité. Les années fastes, c'est 9-10 tonnes. Là, c'est vraiment pas le cas. Et donc, la cueillette, ça offre évidemment au laboratoire une caution écologique. Quelles sont les alternatives à cette arnica montana que l'on dit arnica sauvage ?
Alors, il a fallu des alternatives parce que cette magnifique petite plante jaune d'altitude qui pousse dans les plaines montagneuses n'était pas suffisante pour approvisionner l'industrie. Oui. Donc, il a fallu trouver une autre espèce. Elle se cultive pas. Donc, les chercheurs ont travaillé et ils ont proposé de cultiver et de récolter Chamisonis, Arnica chamisonis. C'est une autre espèce qui, elle, se cultive facilement et qui peut maintenant fournir les industriels et laboratoires pour les usages en traumatologie. Elle a été reconnue à la pharmacopée européenne et française, et encore aujourd'hui, on peut l'utiliser l'une ou l'autre pour fabriquer des médicaments, des compléments alimentaires ou des pommades à base d'arnica.
Et le calendula, est-ce que ça fonctionne aussi ?
Ça marche bien aussi, mais ça n'a rien à voir. Ah. Là, on l'appelait autrefois l'arnica, l'herbe aux chutes, et elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est hématome, traumatisme. Alors que le calendula sera plutôt utilisé dans les irritations, dans la cicatrisation. Donc c'est deux plantes majeures, mais avec des propriétés complémentaires.
Et alors, en gel, en huile, en granule, est-ce que notre arnica a les mêmes vertus ?
Arnica a à peu près les mêmes indications en phytothérapie classique et en homéopathie. Et l'homéopathie, c'est vraiment le remède du traumatisme physique, c'est-à-dire les chocs, les hématomes, les courbatures. Et c'est aussi le remède des traumatismes moraux,
C'est-à-dire que si on a des bleus à l'âme, ça fonctionne aussi alors.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi pris en homéopathie en prévention, avant les interventions chirurgicales, pour réduire un petit peu les effets liés à des hémorragies internes. Et quand on l'a utilisé en usage externe, alors là c'est magnifique parce qu'elle résout les bleus, elle est anti-inflammatoire et elle a en plus quelques effets antibactériens, donc en usage externe, ça ne gâche rien.
Merci monsieur le pharmacien Jacques Florentin du Bon Usage des Plantes qui Soignent, c'est aux éditions Ouest France. Le dernier mot, comme nous le faisons tous les dimanches, citation, Jacques Bonafé.
Si tu trouves que la terre est trop basse, c'est que tu n'es pas à la hauteur. Proverbe paysan.
Et puis donc, je vous renvoie aussi donc sur cette garance voyageuse. Je vous l'ai dit, mais ils font vraiment un boulot formidable. Merci à Arnaud Caillet à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, à Jérôme Boulet donc, qui réalisait cette émission. Et puis la semaine prochaine, je vous emmènerai, alors là ça va être complètement différent, on va passer en fait de l'archipel noir, celle du charbon, à l'archipel verte. À l'archipel verte, donc, ce sera donc du côté de Lens. Le podcast, vous le savez, hein, et puis il y a une rediffusion entre 3h et 4h du matin. Figurez-vous que la tulle du Montilou, c'est toujours là. Mais oui, vous le savez, 32e année quand même. Oui, donc c'est le dimanche à 19h54, donc ce sera ce soir. Voilà, ce sera ce soir, donc à 19h54. Puis pendant que j'y suis quand même, le Twitter pour continuer à communiquer, vous savez ce que c'est aujourd'hui. Tout le temps. Enfin, bon, prenez votre temps quand même. C'est chez Sou, CHEI2SOUX, donc c'est le Twitter. Et là aussi, des informations diverses et variées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end.